Bonjour. Dans la perspective du camp No Border qui se tiendra à Bruxelles du 27 septembre au 3 octobre 2010, Radio No Border vous propose d'écouter la rediffusion d'une émission enregistrée en 2007 par Radio Panique à propos des centres fermés en Belgique.
La possibilité d'enfermer un étranger,
Mathieu Biétlou,
un étranger indésirable ou un étranger qu'on souhaite éloigner, elle existe depuis donc en Belgique, depuis l'existence de la Belgique. Parmi les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement provisoire, il y avait déjà la possibilité d'expulser et donc d'enfermer au préalable un étranger. Mais ça a très peu été mis en pratique et donc on n'a pas jugé bon de créer à cette époque des camps, des centres ou que sais-je pour mettre en pratique ces dispositions. Ce n'est que dans les années 80 que sont apparus les centres fermés. Alors on va pas faire toute l'histoire de l'immigration en Belgique. Mais on peut dire que ce qui a changé dans les années 80, enfin les années 80 ont été la concrétisation de changements qui ont eu lieu un peu avant, dans les années 70. C'est d'une part, on le sait bien, la fin de l'immigration de travail. Donc en 74, on arrête toute possibilité pour la main d'œuvre étrangère de venir en Belgique afin d'y travailler. Les seules voies pour encore entrer en Belgique pour un migrant sont le regroupement familial, qu'on met en place plus ou moins aussi à cette époque-là, et le séjour limité aux études. Pour les autres migrants, il n'y a plus moyen de rentrer en Belgique. Alors il y a une troisième possibilité, mais qu'on a toujours mis à part parce que ce n'est pas considéré comme de la migration, c'est l'asile, qui est lui, non pas une possibilité, une voie de migration, mais qui est un droit international consacré par la Convention de Genève et qui a toujours été mis à part de l'immigration. Avec les années 70, donc, il n'y a plus d'immigration et qu'est-ce qu'on constate quelques années après, donc dans les années 80, c'est que il y a une augmentation phénoménale des demandes d'asile, qui s'explique à la fois par des changements au niveau mondial, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui font qu'il y a plus de raisons et plus de moyens aussi de fuir son pays loin, donc de changer de continent. Mais aussi, justement, parce que, il faut bien dire ce qui est, vu qu'il n'y a plus d'autres moyens de rentrer en Belgique, l'asile est devenu la chance qu'ont tenté la plupart des gens qui voulaient entrer en Belgique. Et donc, c'est parce que la demande d'asile commence à poser problème. Avant ça, je l'ai dit, elle ne posait pas problème. C'était un droit, on se faisait une fierté de le respecter. Mais à partir du moment où ça pose problème, quantitativement... Je l'ai raté.
Quantitativement.
Ça commence alors à poser qualitativement problème aussi, puisque tout le discours qui se développe à ce moment-là, c'est tous ces gens qui se poussent à nos portes pour demander l'asile sont des faux demandeurs d'asile. Le fameux discours sur les faux et les vrais. Et donc, on met en place toute une série de mesures pour trier les vrais et les faux. Notamment, avant ça, vu que l'asile était un droit imprescriptible, la personne qui arrivait en Belgique pour demander l'asile, on lui laissait accéder aux institutions, on la laissait rentrer en Belgique pour qu'elle puisse demander l'asile. Donc, elle ne devait pas remplir toute une série de conditions qu'on demande aux autres personnes qui passent la frontière, des conditions de visa, de moyens d'existence, etc. La personne qui demandait l'asile n'avait pas de visa ou n'avait pas les autres conditions, mais disait c'est normal que je les ai pas puisque je viens demander l'asile. On la laissait rentrer. À partir du moment où il y a cette phobie du vrai et du faux, on dit c'est plus possible. Les personnes qui arrivent à la frontière et qui n'ont pas les conditions et qui disent je n'ai pas les conditions parce que je demande l'asile, vu que c'est peut-être des faux, on ne va plus les laisser rentrer. Et donc, en 87, on change la loi et on dit, cette exception pour les demandeurs d'asile, elle est supprimée. Si le demandeur d'asile n'a pas toutes les conditions, il ne peut pas rentrer dans le territoire tant qu'on n'a pas jugé sa demande recevable. Ça, c'est le changement de loi qui a lieu en 87. Et on change la loi sans réfléchir aux conséquences. Du coup, les mois qui ont suivi, il y a une foule de gens qui sont bloqués à l'aéroport, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer, et qui attendent de voir si leur demande est recevable. Et ils sont bloqués à l'aéroport, et on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, c'est comme ça qu'on invente le premier centre fermé, qui est institué donc à l'aéroport de Zaventem en 88.
Le 127 bis, je pense.
Le 127. Il est le 127 qui est mis en place dans l'aéroport. C'est vraiment un baraquement. C'est tout sauf un lieu qui respecte des conditions sanitaires et d'hygiène. C'est un lieu qui est improvisé en 88. Et c'est intéressant aussi à souligner, quand on voit l'étude de cette institutionnalisation des centres fermés, c'est que donc il y a un changement de loi en 87 qui crée une situation qui nécessite le centre fermé, mais sans avoir prévu la possibilité de centre fermé dans la loi. En 88, on crée le centre fermé, et ce n'est qu'en 91 qu'on réforme une nouvelle fois la loi pour entériner l'existence de centre qui est là depuis 3 ans sans fondement légal. Et ça a été comme ça tout le temps dans toutes les réformes. J'imagine que vous savez que la loi sur les étrangers est une des lois qui a été les plus révisées. On en a plus de 20 réformes depuis 1980. Et toutes les réformes qui ont concerné la question des centres fermés, de l'enfermement, c'est chaque fois des réformes qui viennent après coup entériner une situation mise en place par l'administration ou par le ministère de l'Intérieur, mais sans passer par la voie législative. Donc dans un premier temps, c'est juste pour ces demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport et qui ne peuvent plus rentrer tant que leur demande n'est pas jugée recevable. Et petit à petit, on a élargi. La loi de 93 élargit. On décide que c'est plus seulement les demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport, mais c'est aussi ceux qui font leur demande d'asile sur le territoire sans avoir une série de conditions. On décide qu'on va aussi mettre dans ces centres les personnes en séjour irrégulier qui se font donc qui étaient peut-être arrivées régulièrement, mais qui après entrent dans l'irrégularité et se font choper sur le territoire. Avant, on les mettait en prison. Il y a en 92 des négociations entre la justice et l'intérieur en disant il n'y a plus de place dans les prisons, donc on décide de mettre ces personnes-là aussi dans les centres fermés. Donc ça, c'est en 93. En 96, il y a en plus la convention Schengen qui entre en application. Il y a toute une série d'obligations européennes qui fait qu'on peut ou qu'on doit, selon la façon dont on dit des choses, enfermer encore plus de monde. Et donc, en 96, on élargit encore le nombre de personnes, le type d'étrangers qu'on peut enfermer. On élargit aussi, il y a tout un débat sur la durée de détention qui a fortement varié. En 96, elle est arrivée à son maximum, c'est-à-dire illimitée. Et donc, à chaque réforme, évidemment, on construit alors aussi des centres pour évidemment mettre en application ces politiques. Il y a maintenant donc en Belgique 6 centres fermés. On dit 6 centres fermés, c'est un terme générique, mais le terme officiel, le centre fermé n'apparaît pas dans les textes légaux, et il y a en fait des petites différences, mais que je vais juste vous citer et pour vous dire tout de suite qu'elles sont pas si effectives que ça dans la pratique. C'est que donc il y a le centre 127 qui est un centre de transit, donc pour les personnes qui arrivent à l'aéroport et le temps théoriquement qu'on étudie la recevabilité de leur demande. Il y a le centre INAD pour passagers inadmissibles qui est un centre très particulier auquel aucune ONG n'a accès, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. C'est un centre normalement où les gens ne restent pas très longtemps puisque ce sont ceux qui arrivent à l'aéroport sans les documents, qui ne font pas de demande d'asile et qui repartent par l'avion suivant, quoi. Donc là, il n'y a même pas de procédure administrative, on les parque là le temps qu'il y a un nouvel avion qui repart vers leur pays. Il y a ensuite le centre 127 bis, qui lui est un centre de rapatriement. Donc théoriquement, ce sont les demandeurs d'asile déboutés en fin de procédure qui sont de nouveau parqués là en attente de leur éloignement. Et puis il y a 3 centres, donc c'est les 3 premiers que j'ai cités sont dans l'enceinte de l'aéroport. Il y a 3 centres sur le territoire qui sont, eux, des centres pour illégaux. Le centre pour illégaux de Votem, le centre pour illégaux de Merksplas et le centre pour illégaux de Bruges. Et donc théoriquement, on voit qu'il y a des centres pour les demandeurs d'asile en début de procédure, d'autres en fin, d'autres pour les personnes irrégulières, mais en pratique, et c'est vraiment pour des raisons pratiques, parce qu'il n'y a pas assez de place dans tel centre, parce que il y a une émeute dans tel autre centre et on décide de diviser le mouvement en éparpillant les gens. Donc finalement, dans tous les centres fermés, on retrouve tous les profils, des demandeurs d'asile en début de procédure, des demandeurs d'asile frontières, des demandeurs d'asile territoire, des demandeurs d'asile déboutés et des personnes en séjour irrégulier.
En fait, ça a commencé en 1997, très exactement, au moment où on a appris la construction du centre fermé de Bretten. Alors déjà, certains d'entre nous avaient été sensibilisés à la question et s'étaient rendus autour du centre 127 bis. Et donc, quand on a appris qu'un centre fermé allait s'ouvrir à Liège, on a décidé tout de suite de constituer le mouvement le plus large possible.
D'accord. Et donc, c'était, vous avez assisté à toute la construction de ce centre fermé.
Oui, on a assisté à la construction. Il y a eu pas mal d'actions pendant la construction. Il y a eu notamment une occupation. Des manifestations autour du centre aussi.
En 1997, certains des nôtres sont montés d'ailleurs sur les toits en construction à l'époque. Ils se sont enchaînés même sur la grande poutre de telle façon à ce qu'on ne continue pas à créer le centre. Malheureusement, les policiers sont venus en nombre et ils sont parvenus à nous déloger d'ailleurs.
Et voilà, malheureusement, ce centre s'est ouvert et depuis qu'il est ouvert, notre collectif a une présence bi-hebdomadaire autour du centre, tous les mercredis, tous les samedis.
Le mercredi et le samedi, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui, mais en plus petit. Nous essayons de nous mettre en rapport immédiat avec les personnes qui se trouvent dans le centre de Votem, et aussi bien ici du côté Visé-Voix où nous nous trouvons, que de l'autre côté rue Vertevoix. Et on discute avec les comme nous savons qu'ils sortent ici entre 15h30 et 16h30, donc nous arrivons vers 16h et nous nous mettons ici avec l'escabelle et là sur le côté et nous discutons avec les prisonniers et leur demandons ce qu'ils souhaitent à ce moment-là. C'est principalement naturellement les cartes de téléphone qu'ils nous réclament, de telle façon à pouvoir communiquer et avec leur famille, pas avec les avocats, parce que pour leur avocat, ils ont droit à avoir immédiatement, via l'assistance sociale, un contact direct.
Gratuit.
Mais pour le reste, pour avec leur famille, ils n'ont aucun contact. Il y a certains, d'ailleurs, qui à certains moments n'avaient, donc même, savaient, leurs parents ne savaient même pas qu'ils étaient ici. Et c'est suite au cas de téléphone qu'on leur a envoyé qu'ils ont pu signaler à leur parenté qu'ils se trouvaient ici dans le centre fermé.
Il y a Catel. Bleu, rouge, jaune, vert.
Mohamed.
Donc moi j'étais dans l'aile bleue. Et il y a certains de l'église qui sont venus avec moi, d'autres dans d'autres ailes. Ça dépend des gens. Et alors au fur et à mesure avec le temps, bon, dans le centre, on a eu des traumatismes. C'est-à-dire moi, je commençais à vomir du sang par la nervosité. Donc, j'ai demandé des médicaments, tout ça, et le soir, ils nous donnaient des médicaments. Nous, c'est pour dormir ou je sais pas quoi là. Mais ils nous donnaient des médicaments, dans le dosage, il n'y est pas. On voyait pas le dosage. Tous les jours, on dort, on fait que dormir. Je dis, merde alors, c'est quoi ça? Quand tu demandes, par exemple, au gardien, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir quelque chose? Ça rentre par là, ça sort par là. Vous attendez devant la grille, le grillage comme un singe. Vous attendez. Quand vous réclamez, oh, tu fermes ta gueule ou le cachot.
Et c'est quoi ce grillage? C'est un grillage qui sépare?
Qui nous sépare par rapport à, c'est-à-dire, l'autre monde de liberté. Eux, ils circulent dans la liberté. Nous, on a juste un couloir. Et ben, c'est comme là, dans le jardin. Donc, de là, c'est nous. Et de l'autre, là-bas, il y a les voitures qui circulent. Et c'est eux. Et s'il y a par exemple, quelqu'un qui réclame ou qui gueule par rapport à lui, t'as 5 ou 6 gardiens qui vous tombent dessus, qui vous tiennent d'une manière agressive et qui vous poussent dans, comme ça au cachot, et tu rentres. Et quand vous rentrez au cachot, là, c'est l'enfer. Je vais pas dire que tous les gardiens, ils étaient méchants. Il y avait une catégorie qui était gentille avec nous. Bon, on a essayé comment les, Il y a des gens comme moi qui étaient enfermés, on les amenait, ils étaient normaux dans les cellules. Donc quand ils sortaient de la cellule, ils étaient comme ça. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu le film Vol au-dessus d'un nid de coco, je sais pas quoi, avec Jack Nicholson? Ben c'est la même chose. Quelqu'un qui rentre, qui parle bien, et d'un coup, là, t'as la langue qui se suspend, on dit, merde, qu'est-ce qui se passe là-bas, de l'autre côté? Et pour nous, c'était l'autre côté.
C'est une cellule qui est vide qui est...
Une cellule, vous avez un matelas, bon, pas comme nous, un matelas en béton. Un matelas en béton, il y a, je pense, il y a un matelas, une couverture, et t'as les odeurs, tu chies là-bas. Il y a même certains qui ont tapissé le mur avec leur merde. Avec leur merde, en vous donnant la bouffe comme ça, comme un chien, c'est lamentable. On vous fait sortir, quoi, même pas une heure, tu sors tout seul, entouré de 6 gardiens. Puis on vous rentre, quand tu as besoin de fumer ou un truc comme ça, tu ne fumes pas à l'intérieur, on te donne une cigarette, s'ils ont envie de vous donner une cigarette, sinon tu tapes ta tête contre le mur, tu peux crier, personne ne va venir à ton secours. Et, c'est-à-dire, on te dresse pour être un sauvage. On te dresse pour être un sauvage. Et pourtant, il faut avoir la volonté et le cœur solide pour ne pas acquérir cette sauvagerie. Parfois, on fait semblant d'être gay pour ne pas avoir ça. Parfois, on voit des gens qui partent dans les cachots, le lendemain, on n'entend plus parler d'eux.
C'est comme ça que se passaient les départs ? Sans préavis, rien dans...
Ah, ils arrivent, le directeur a besoin de vous. Bon, tu pars voir le directeur, du coup, vous passez à la cellule, au cachot. Et du cachot à l'aéroport.
Et les affaires suivent ?
Après, les gardiens qui viennent chercher vos affaires. Et par exemple, quand quelqu'un se libère ou il y a un transfert, on ne vous dit pas ça. Ils amènent les affaires et nous, on demande, est-ce qu'il est libéré ? On ne sait pas. Et pourtant, ils savent. Est-ce qu'il est où ? Je ne sais pas. Même si on lui tire une balle de l'autre côté, on ne sait pas. C'est-à-dire, vous vivez dans l'obscurité totale. Vous ne savez plus rien. Une fois qu'il franchit cette porte, vous ne savez plus rien.
Comment ça se passe la journée là ? Il y a des repas à heure fixe, tout le monde mange ensemble ?
Le matin, on se lève à... Il y a des gens qui se lèvent, d'autres qui ne se lèvent pas. Si tu veux prendre ton petit déjeuner, il faut se lever à telle heure pour avoir les biscottes et tout ça, à 8 heures.
C'est distribué comment ?
Ils ont un guichet, tu te présentes avec le plateau et votre passe. C'est-à-dire le fameux passe, tu leur montres, ils t'écrivent. Si tu manges pas, on te note. Comme quoi t'as pas mangé. À midi, si t'as pas mangé, c'est que tu fais grève de la faim. Même si t'as mal, pour eux, tu fais grève de la faim. Donc tu dois manger. Le réfectoire, il faut manger là, il faut manger. Mais à part ça, il faut pas manger. Les médicaments, on vous donne avec le repas. C'est-à-dire à midi, t'as les comprimés, le soir t'as les comprimés, et à 10h vous avez encore les comprimés du soir pour nous endormir.
Vous pouviez refuser de les prendre ?
Ah non, tu les prends. J'ai pas vu quelqu'un refuser. J'ai vu quelqu'un qui réclamait ces médicaments, qui les a pas eu. Ces médicaments pour sa santé, il les a pas eu. Donc ça, on les prenait. C'était tous les jours, quotidiennement, pendant notre période, en 4 mois, on les a pris. Donc quand tu sors, on t'a habitué à prendre des médicaments.
Finalement, vous êtes resté combien de temps à Votem ?
On est resté 121 jours. Et ils ont fait appel au consulat une dizaine de fois. Le consul, quand il est venu, on lui a expliqué la situation, la manière dont ils nous ont traités. On lui a dit, voilà ce qui s'est passé, franchement. Et c'est comme ça qu'on est resté. On n'a pas eu ce fameux laissez-passer. Quand on allait commencer le 5e mois, ils m'ont appelé. Comme c'est moi qui étais le porte-parole des 26 personnes là-bas, ils m'ont appelé. Monsieur, oui, vous venez. Vous savez pourquoi on vous appelle ? J'ai dit, soit vous m'ajoutez à moi, ou pour me libérer. Il dit, non, on va vous ajouter à moi. Vous signez, j'ai refusé de signer. Le droit d'expulsion. J'ai refusé de signer. Alors là, j'ai crié. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de nous enfermer plus que 4 mois. Et le lendemain, à 4h de l'après-midi, j'étais là en train de regarder la télé. L'assistante sociale, il est venu me voir, m'a dit, Mustapha, je lui dis, oui, vous êtes libre. Je lui dis, qui, moi? Non, tous les gens d'Anderlecht. Je l'ai dit à mes copains, ils ne me croyaient pas. Bon, j'ai pris mes affaires, quand ils m'ont vu, ils ont ramassé tout, les affaires. Et au moment où on allait sortir, ils nous ont dit, voilà. Je dis, combien on a de temps pour quitter le territoire? Il était 17h à ce moment-là, 17h. Ils m'ont dit, vous avez une journée. Je dis, quoi, une journée? Déjà, il est 17h, vous n'avez qu'à me laisser ici, pourquoi vous allez me libérer? Eh bien, des gardiens, il m'a dit, non, vous êtes libre. Ils nous ont donné juste un papier. On est rentré de telle date, on est sorti de telle date. Vous êtes libre. C'est-à-dire, vous retombez dans la même spirale qu'avant. Vous redevenez un clandestin, vous errez dans les rues avant. C'est-à-dire, une fois que les élections communales sont finies, maintenant, vous allez, vous faites quelque chose de votre vie. Donc, quand vous voyez ça, ça a servi à quoi cette expulsion? À rien. Le 11 novembre, on est sorti. Si ma mémoire elle est bonne, parce que depuis cette arrestation, j'ai tendance à oublier les dates.
Il y avait la télé
dans le centre. Il y a l'image. L'image, elle est devant toi, mais le son, on ne l'entendait pas. Parce que chacun rêvait. Il y avait cette peur. Parce que vous étiez dans le centre et vous avez cette peur que le lendemain, vous allez vous retrouver dans le cachot pour vous transférer à l'aéroport. Il y avait cette peur, journellement, on la vivait avec nous. Même avec un laissez-passer sans laissez-passer, vous vivez cette crainte, cette peur-là. Que le lendemain, on va vous dire, tiens, l'aéroport. À un moment donné, moi, dans ma tête, comme j'ai dit, je le dis à mon médecin, pour moi, la Belgique, elle est raillée. Parce que j'avais confiance dans cette loi. J'avais confiance. De tout ce que j'ai entendu, tout s'est détruit. En un seul coup, c'est détruit. Donc, j'ai plus confiance. Maintenant, j'ai tendance à faire confiance à un voleur qu'à un policier. Quand je vois la police, je tremble de peur. Mais ça, c'est suite aux conséquences et au traitement que j'ai subi. Et le traitement que je suis maintenant consiste à me sortir de ce gouffre-là.
Mathieu Bietlou.
Donc, dans le cas du 127 bis et de Votem, ce sont des bâtiments qui ont été construits en vue de devenir des centres fermés. Donc on a fait les plans, ça a été réfléchi, ça permet, tout a été réfléchi en termes d'ouverture électronique des portes, de caméras, etc. Ce qui fait que c'est un centre, on va dire, une technique de surveillance plus moderne, qui fait qu'en apparence, il y a plus de liberté. Les conditions de vie ont l'air plus agréables parce que les détenus, moi je les appelle des détenus, même si le terme officiel est...
Occupant.
Donc, en général, on dit résident, mais le terme dans les textes légaux, c'est, moi je trouve ça quand même, ça mérite d'être souligné, c'est drôle ou de mauvais goût, ce sont les occupants. Alors je ne sais pas si on fait référence à d'autres occupants, mais voilà, donc on les appelle les occupants, moi je les appelle des détenus parce que je considère qu'ils sont dans un régime carcéral et eux se perçoivent comme ça aussi. Donc les détenus à Votem et au 127 bis ont un peu plus, on va dire, d'aise ou de liberté à l'intérieur du centre parce qu'ils peuvent aller de leur chambre aux salles de séjour, ils peuvent voir leur famille, etc. parce qu'ils sont surveillés par caméra et par porte électronique, etc. Tandis que à Bruges et Merksplaats, où ce sont des centres qui ont été installés dans des bâtiments vétustes, une ancienne prison pour Bruges, centre pour vagabonds, donc les migrants sont les nouveaux vagabonds d'aujourd'hui. On a aboli l'interdiction du vagabondage, mais on a réutilisé les lieux pour enfermer des migrants qui sont des vagabonds au niveau mondial. Donc ce sont des bâtiments qui sont vétustes et dont on n'est pas sûr, et ce qui fait que les détenus sont beaucoup plus surveillés. Toutes les portes sont fermées à clé. Donc dès qu'ils veulent franchir une porte, y compris pour aller à la toilette, ils doivent être accompagnés d'un gardien. Vu que le bâtiment ne permet pas de la surveillance partout, etc., ils ont un régime collectif beaucoup plus strict, c'est-à-dire qu'ils font tous la même chose au même moment. Ils se lèvent tous à la même heure, ils se lavent tous les dents à la même heure. Et c'est très 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 strict comme régime collectif, parce qu'il n'y a pas les mêmes possibilités de surveillance. On dit que les centres fermés ne sont pas des prisons. La plupart des détenus, des personnes que j'ai rencontrées qui ont connu la prison et le centre fermé disent tous préférer la prison, et la raison qui revient le plus souvent, c'est celle-là. C'est que en prison, bon, à part le fait qu'ils savent pourquoi ils y sont, etc., quand c'est pour un délit de droit commun, en prison, bon, ils sont enfermés, mais dans leur cellule, ils font ce qu'ils veulent, regarder la télé ou pas, dormir ou pas. En centre fermé, le régime collectif fait que ils regardent la télé au moment où on leur dit de regarder la télé, ils dorment au moment où on leur dit, et l'anecdote qu'ils racontent à chaque fois, c'est pendant le temps dans la pièce de séjour, s'ils veulent faire une sieste à ce moment-là, donc ils peuvent pas aller dans leur chambre, mais même s'ils s'endorment dans le séjour, les gardiens les réveillent parce qu'ils doivent dormir la nuit et pas pendant le moment de détente, entre guillemets.
On a beaucoup parlé du traitement qu'on réserve aux migrants, et je pense au traitement des plus faibles d'entre eux, à savoir les enfants.
Alexis de Soif.
Il faut savoir que la Belgique, il y a d'autres pays européens qui n'ont pas choisi cette option-là, mais la Belgique a choisi l'option de mettre les enfants en centre fermé. Et les centres fermés sont des prisons en Belgique. La seule différence, c'est que les gens qui y sont, contrairement aux prisons de droit commun, n'ont commis aucun délit, ils n'ont juste pas des bons papiers. Alors, le ministre de l'Intérieur a beau dire que les enfants, ils restent maximum 2 à 3 semaines, il y a plusieurs cas où les détentions se prolongent au-delà de 3-4 mois, et ce sont parfois des enfants de 3, 4, 5, 6 ans qui sont comme ça derrière les barbelés en bordure de pistes de l'aéroport. Et je pense que, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler de nos valeurs, mais je pense qu'une de nos valeurs, d'abord le respect des droits de l'homme, mais c'est peut-être que les enfants, on ne les enferme pas comme ça dans des prisons. Et je pense que l'Union européenne, et monsieur le commissaire Michel est peut-être en position pour pouvoir le faire, pourrait s'engager à mettre fin dans certains États membres à ces violations des droits de l'homme.
Pour ce qui concerne les centres fermés, je connais le débat, hein. Il n'est pas sûr. J'ai été ministre dans un gouvernement où on a défendu l'existence des centres fermés.
Louis Michel.
Il y a certainement d'autres solutions, sans doute. Mais il faut quand même les mettre en œuvre. Et d'abord, je dois vous dire que présenter les centres fermés comme des prisons sans plus, c'est incroyable.
C'est pas... les barbelés, monsieur.
Oui, oui, mais ça, je suis d'accord. Mais il y a juste pour ça, pas de démagogie, s'il vous plaît. Je pense ne pas avoir. Croyez-moi, je suis très sensible à tout ça. Mais ce que on oublie de dire, c'est que les enfants qui étaient notamment non accompagnés étaient évidemment les premières victimes exposées, notamment à la traite des êtres humains. Il y a pas mal de cas que l'on connaît de ce point de vue-là. Donc, bon, ça n'est pas glorieux, ça, je n'ai jamais dit que c'était glorieux, mais de là à caricaturer trop, ça, je ne suis pas d'accord.
J'aimerais juste vous répondre. En fait, je suis avocat, je pratique cette matière-là, et la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Belgique.
Oui, il y a d'ailleurs des avocats qui se sont spécialisés dans ces matières-là, effectivement, et bien.
Voilà, et donc la Cour européenne des droits de l'homme, j'aimerais pouvoir répondre.
Mais condamner la Belgique pour détention. Je ne suis pas ici pour donner raison à tout le monde.
Aux détentions des enfants,
qui sont des structures. Je vous ai parfaitement entendu, et je ne suis pas d'accord avec vous. Pour dire, comme ça, de manière caricaturale, que c'est une prison.
C'est la Cour européenne qui le dit. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a dit dans son arrêt du 12 octobre que c'est un régime carcéral destiné à des adultes et pas des enfants. Vous êtes commissaire européen et vous dites que la Cour européenne.
Je n'ai pas besoin de le voir plus que l'on peut espérer un meilleur traitement, sans doute, que l'on peut espérer une situation plus idéale, sans doute, mais je ne peux pas accepter que l'on dise que c'est une prison.
C'est un arrêt de la Cour européenne, monsieur le commissaire.
Il y a une querelle sémantique permanente en fait autour de ces questions-là.
Pierre Arnaud Perrouti.
Là, c'est très frappant d'entendre Louis Michel qui dit c'est pas une prison. J'aurais envie de lui demander, est-ce qu'il est jamais allé dans un centre fermé? Est-ce qu'il a jamais passé la porte d'un centre fermé? Parce qu'objectivement, ça a tous les attributs d'une prison, depuis les barbelés, depuis les barrières sécurisées, depuis les sécurités, les fouilles à l'entrée, jusqu'au régime de groupe. Parfois même, les détenus de centre fermé s'estiment moins bien traités en centre fermé qu'en prison, par exemple, parce qu'ils n'ont pas la télévision dans leur chambre ou qu'ils peuvent pas y travailler. Mais plus généralement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement une sorte de double discours permanent. D'un côté, qui veut euphémiser, donc adoucir le traitement qu'on fait subir aux migrants. Mais par contre, quand il s'agit de présenter la menace que les migrants représentent, là, tout à coup, on sort le gros vocabulaire et l'artillerie lourde. Donc il ne s'agit pas du tout d'occupants ou de résidents, il s'agit bien de détenus, il faut appeler un chat un chat. Même chose pour ce qu'on a appelé les vols sécurisés, qui en fait définissent les charters, ce que nous on appelle des charters, donc c'est l'expulsion collective de personnes. Même chose pour l'éloignement, au lieu de parler d'expulsion, évidemment c'est plus soft de parler d'éloignement, c'est moins ferme que d'expulser. Et donc voilà, il y a d'une part cette espèce d'idée qu'on adoucit en permanence, et de l'autre côté par contre, quand on parle de menaces, là tout de suite on parle d'afflux, quand on parle pas d'afflux massif et de lien avec le terrorisme, et de danger permanent, et de guerre aux migrants. Donc il y a vraiment une guerre des migrants. Donc il y a un jeu constant, une balance constante entre les deux. Et c'est clair qu'on essaie de rectifier chaque fois qu'on peut, mais que les médias, malheureusement, se font trop souvent l'écart. Enfin, c'est pas le cas de tous. Il y a des journalistes qui savent très bien ce qu'ils écrivent et qui connaissent bien la question. Mais trop souvent, les médias se laissent un peu embarquer dans des terminologies un peu trop vite utilisées, quoi.
Oui, oui, oui. Sous ce flou de vocabulaire, qui est quand même un espèce de filet comme ça tendu sur la réalité. Par ailleurs, le ministre De Waal a admis récemment qu'il n'y avait pas de raison de différencier le personnel des centres fermés du personnel des prisons.
Oui, ça c'était assez drôle évidemment, mais ça, c'est tout récent, c'est dans un arrêté ministériel que le ministre De Waal a pris. Je pense que c'est des vieilles revendications syndicales de payer ce qui est normal, après tout, des heures supplémentaires prestées par des fonctionnaires, mais il se fait que ces fonctionnaires travaillent dans des centres fermés et qu'eux demandent à être payés au même tarif en fait que les gardiens de prison. Et donc pour ça, De Waal estimait qu'il n'y avait pas de raison de les payer moins cher puisqu'ils faisaient le même boulot. Et donc effectivement, ça met de l'eau au moulin, peut-être qu'il devrait parler à Louis Michel et échanger des propos là-dessus.
Mathieu Biétlot.
Leur mission principale est de contribuer aux objectifs du centre fermé, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre pour amener les occupants à accepter, donc pour les préparer à leur retour, pour les amener à accepter la décision d'expulsion qui les attend. Et je n'ai plus la phrase de mémoire, mais il y a certains textes, je crois que c'est pas l'arrêté royal, mais des textes de l'Office des étrangers, qui vont même jusqu'à dire qu'il faut conditionner les personnes en centre fermé à leur retour au pays, quelle que soit la décision prise sur leur dossier. Donc où apparemment on anticipe que même quelqu'un qui aurait une chance d'être accepté à l'asile ou voire à une régularisation ou à une autre démarche qu'il fait, il faut quand même le conditionner à retourner dans son pays. Il y a un rapport de centre, c'est celui de Mexplace, qui définit le personnel en je vais mal le prononcer, mais c'est Terugkeer Ambtenaar, je crois. Donc fonctionnaire du retour. Tout ce dispositif, comme je l'ai dit, le personnel, les institutions, tout est mis en place pour éloigner les personnes indésirables, et derrière ça, évidemment, donc, pour empêcher l'immigration indésirable. Or, si on analyse concrètement les chiffres. Tout d'abord, il y a quand même une minorité de demandeurs d'asile et de migrants irréguliers qui passent par les centres fermés. Je pense que c'est de l'ordre de 10% des demandeurs d'asile qui passent par les centres fermés et de 1% des personnes en séjour irrégulier, selon les estimations. Si on compte qu'il y a plus ou moins 100 000 sans-papiers en Belgique, on n'a jamais de chiffre précis là-dessus, mais si on part sur une estimation de 100 000, il y a plus ou moins 1% de ces personnes qui passent par un centre fermé, c'est calculé sur une année. Donc déjà, ça concerne peu de gens. Il faut s'en réjouir, hein, évidemment, ouais. Je ne suis pas en train de plaider pour qu'il y en ait plus, mais ça montre la faible efficacité, la faible utilité finalement de ces centres fermés, en tout cas par rapport à leurs objectifs proclamés. Donc il y a peu de gens qui y passent, et ce qui est encore plus fou, c'est que quand on observe ce qui se passe dans les centres fermés, sans rentrer dans les détails, il y a à peu près une personne sur deux qui passe dans un centre fermé, soit inutilement, soit abusivement. Abusivement, pourquoi ? Parce que elle n'aurait pas dû s'y trouver. Il y a parfois des erreurs. Je cite toujours, mais on a déjà retrouvé des Belges en centre fermé, des Belges SDF qui se font arrêter par les flics et qui n'ont pas leurs papiers sur eux.
Il y a des personnes migrants européens, j'imagine.
Et on les prépare au retour vers quel pays ?
C'est là le problème. Abusivement aussi parce qu'il y a finalement des personnes qui obtiennent, enfin, soit qui avaient des papiers dans un autre pays, soit qui obtiennent leurs papiers et donc on se demande pourquoi ils ont dû être détenus si longtemps, alors qu'ils étaient soupçonnés d'être des faux, entre guillemets. Et puis surtout inutilement, ça c'est la part la plus importante, c'est 45, presque 50% de personnes qui sont détenues en centre fermé parce que elles n'ont effectivement pas droit à des papiers en Belgique ou au titre de réfugiés. On les enferme pour les éloigner, et puis au bout d'un certain temps, aujourd'hui on en est théoriquement à 5 mois, même s'il y a des entourloupes pour contourner ça, mais il y a quand même, la loi a quand même finalement fixé un délai maximal de détention. On en est à 5 mois maintenant, mais c'est parfois plus, mais on va dire 5 mois. Eh bien, au bout de ces 5 mois, si la Belgique n'a pas réussi à éloigner la personne, puisque c'est quand même pour ça qu'on l'enfermait, il y a quand même la chambre du conseil qui décide. Là, la détention devient illégale. Illégale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les a enfermés 5 mois, on n'a pas réussi à les éloigner, et on les libère. Mais on les libère en disant, on ne peut plus les enfermer, donc on les libère, mais ils ne peuvent pas rester en Belgique, donc on suppose qu'ils disparaissent. Mais ils disparaissent où ? Dans la clandestinité.
Oui, avec un ordre de quitter le territoire.
Avec un ordre de quitter le territoire, en général dans les 5 jours, et un billet de train pour rejoindre la ville la plus proche. Et après, on s'imagine qu'ils vont quitter le territoire par eux-mêmes.
Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans un centre fermé, s'organiser avec les autres, c'est pas possible.
Dédé Mutombo Kassadi.
Pas du tout, parce que déjà, les agents, la façon dont le centre est construit, tout ça, la répartition des bâtiments, fait que vous ne pouvez grand jamais vous organiser à 3, 4, 5, c'est impossible. Donc, l'organisation et le personnel. Quand tu te décides de faire une grève de faim, c'est toi qui l'as fait. Et ce qui est encore pire, c'est que, parce que souvent quand on fait la grève de faim, c'est pour se faire entendre. Mais là-bas, il n'y a personne pour t'entendre. Donc, quand tu fais ta grève de faim, par moment, tu te dis, mais qui me voit dans cette grève de faim ? Je suis en train de mourir seul et sans qu'il ait communiqué sur ça. Ce qui fait que c'est vraiment un coup de chapeau pour des associations qui essaient quand même de trouver des voies et moyens pour être tout le temps en contact avec les personnes détenues. C'est vraiment très bien parce que quand tu fais une grève de faim et que cette grève de faim n'est pas médiatisée, entre guillemets, elle ne sert plus à rien parce que tu t'auto-détruis. Et finalement, quand ils vont trouver que tu es vraiment, vraiment au bout des bouts, ils peuvent te faire sortir de là. Et quand toi, tu sors, tu auras des conséquences après, des conséquences de santé. Parce qu'il y a des gens comme ça où il n'y a rien, mais on ouvre la porte, on dit, allez, va dehors, vas-y, tu as 5 jours pour quitter la Belgique. Donc, et puis chaque jour, quand tu fais une grève de faim, on te contrôle, on te prend l'attention. Moi, on me prenait l'attention chaque jour, on me pesait chaque jour. Ça veut dire qu'ils sont aussi très prudents, que tu ne puisses pas mourir. Donc, ils sont pas bêtes, hein, ça il faut le savoir. Et ils n'ont pas aussi besoin que tu meurs là-bas.
Donc, il était surveillé de très très près et les bâtiments sont tellement bien organisés que tu ne peux même pas te faire du mal dedans. C'est difficile de se faire du mal. Parce que je me rappelle que quand j'étais tellement au bout, je me disais, mais je peux me pendre ici, je peux me faire ceci, ici. Mais tu regardais des moyens, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, s'organiser de façon collective, c'est vraiment impossible. Parce que déjà, vous êtes nombreux dans un centre fermé, mais vous êtes bien séparés. Ça veut dire dans notre département, on n'était que 12-15 comme ça. Et ces 12-15-là, ce n'est pas des gens avec qui vous parlez la même langue. Donc, les dispatching prend bien le soin de bien vérifier ces choses. Donc, déjà, la communication, elle est difficile. Dans les départements où j'étais, je ne communiquais qu'avec ma femme. C'est tout, parce que l'autre à côté, il parlait une langue que je ne connaissais pas. L'autre, il parlait une langue que je ne connaissais pas. Finalement, on créait une langue de signes, tout ça, mais ces signes qu'on se faisait, ça ne traînait pas. Quelqu'un est convoqué, il est parti, il n'est plus revenu. Le matin, il y a une voiture de police qui arrive, qui prend deux, trois, ils partent. Donc, il y a un nouveau qui arrive, demain, il n'est plus. Donc, c'est une machine qui tourne, c'est une bande qui tourne. C'est quasiment impossible de dire qu'on peut s'organiser, faire un mouvement, revendiquer en masse. Non, c'est le centre fermé, il est tellement bien organisé dans un sens très qui rend toute revendication collective difficile. Ouais.
Mathieu Bietlou.
Oui, enfin, des cas de tentatives d'émeutes, il y en a très 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 régulièrement, des grèves de la faim, des émeutes. Il y a aussi des formes de rébellion plus personnelles et plus négatives, qui sont les automutilations, les tentatives de suicide, etc. Ça, il y en a tout le temps, parce qu'évidemment, un tel régime, et finalement, c'est pas tant le régime, les conditions de détention, mais c'est le principe pour ces personnes de se retrouver enfermées sans savoir pourquoi. Et en plus, au terme d'un parcours qui a quand même été souvent douloureux, évidemment que ça crée de la révolte. Mais donc il y en a régulièrement, mais qui sont vite étouffés parce que il y a là tout un dispositif, tout un personnel qui a donc, comme je l'ai dit, mission de conditionner ces personnes à leur retour, mais qui a en plus, ça c'est pas dans ses missions, il y a quelque chose qui saute aux yeux quand on creuse un peu le fonctionnement du centre et des pratiques mises en œuvre par le personnel, c'est qu'il y a une volonté, enfin ça c'est un peu propre à n'importe quelle institution, mais une recherche de calme. On veut le moins d'ennuis possible. Et donc tout ce qui est mis en place dans les centres fermés, c'est, comme dit Nicole Meyer, c'est un subtil jeu entre la carotte et le bâton. C'est qu'il y a tout un arsenal de sanctions, de systèmes répressifs. Tu as parlé du cachot, il y a le cachot, il y a des privations d'avantages, il y a des corvées, il y a surtout des transferts, parce que dès que quelqu'un devient un peu trop turbulent, ou dès qu'il y a un groupe qui se forme, on le divise en transférant dans d'autres centres, voire vers des prisons. Et puis il y a tout un système aussi d'une politique occupationnelle, un système maintenant d'animateurs de groupes, etc., qui vise vraiment à calmer les gens. Je crois que c'est pas animateur qui s'appelle, c'est éducateur quelque chose, je ne sais plus, qui ont pour fonction d'animer les groupes, et justement, ça paraît très positif, mais là aussi, on découvre dans les textes qui décrivent leur mission, qu'il est très clairement dit qu'ils ont aussi une fonction de connaître le groupe et de repérer les meneurs pour les isoler du groupe, quoi. Donc oui, il est très difficile de se révolter, de s'organiser au sein d'un centre fermé. Mais avant même tout ce dispositif, c'est déjà très difficile, parce que ce sont des personnes qui sont quand même souvent abattues, le fait d'avoir eu un parcours compliqué d'exil et puis de se retrouver en centre fermé, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont abattues. Il y a aussi difficulté de créer un collectif, vu que ce sont des gens qui viennent d'horizons très très différents, aussi bien en termes de pays, de langue, d'engagement politique. On a là des révolutionnaires et des réactionnaires, que ce soit en termes d'âge, en termes de classe sociale. Donc c'est très difficile effectivement d'avoir un mouvement à l'intérieur.
Louis Michel a déclaré dernièrement dans une tribune, il est invité par Le Soir, le journal Le Soir, il a dit qu'on ne pouvait pas assimiler les centres fermés à des prisons. Vous pensez quoi de ça?
Mais justement, il a raison. On ne peut pas assimiler des centres fermés à des prisons. Mais il faut par contre les assimiler à des centres de concentration, comme ce fut le cas à Auschwitz, comme ce fut le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs. Parce qu'en fait, pour être dans une prison, on est supposé avoir commis un délit. Mais pour être dans un centre fermé, on ne commet pas des délits. Le seul délit, c'est d'être venu demander la protection. Vous venez demander la protection, on vous met dans un centre fermé. La même chose, les Juifs n'avaient pas commis des délits. C'est simplement parce qu'ils étaient Juifs qu'ils se sont retrouvés dans des camps de concentration. Louis Michel a raison. C'est le même Louis Michel qui soutient les dictatures, par exemple, au Congo, qui soutient les dictatures dans les pays du tiers-monde, qui va organiser des élections électroniques pour faire passer un candidat qui n'est pas aimé par la population. Eh bien, c'est le même Louis Michel qui considère qu'on ne peut pas assimiler les centres fermés à des prisons. Il a raison, il faut les assimiler au centre de concentration. Voilà.
Comparer les centres fermés aux camps d'extermination nazis pendant la guerre, là non, clairement non. Je pense qu'il faut vraiment, il y a une ligne à pas franchir là.
Pierre Arnaud Perrouti.
La politique n'est pas la même, le sort réservé aux étrangers qui sont enfermés et pas celui réservé aux juifs. Donc là je pense que ce genre de propos décrédibilise en grande partie les gens qui les tiennent. Et donc je pense qu'il faut vraiment éviter de franchir ce pas-là. Alors sur la question des camps, est-ce qu'on appelle ça un camp ou une prison, peu importe finalement, la Ligue milite dans un réseau qui s'appelle Migre Europe, dont vos auditeurs ont peut-être entendu parler. Sinon, je les invite à aller sur le site de Migre Europe, donc c'est www.migreeurope.org, mais en tapant Migre Europe sur Google, vous allez le trouver aussi. Et je vous parle de ça parce qu'il y a Migre Europe, depuis quelques années, a utilisé le mot camp, et ça lui a été assez reproché au départ. Et donc on s'était fendu à l'époque d'un texte de justification en disant pourquoi on avait choisi ce terme-là, tout en prenant bien soin de se distancer d'amalgames trop facile. Mais pour nous, le terme camp était parlant, d'abord parce que, sans encore une fois aller jusqu'au camp nazi, le camp n'est pas du tout l'apanage des nazis, et c'est vraiment un dispositif qui peut être soit physique et prendre l'aspect d'une prison, on ne va pas ergoter éternellement, mais qui peut prendre l'aspect d'une prison sur le territoire européen, mais peut prendre des aspects beaucoup plus informels aussi aux frontières de l'Europe, et en particulier juste au-delà des frontières de l'Europe, en Afrique du Nord, mais aussi en Europe de l'Est. Et même au-delà de ces camps plus informels, mais qui restent des entités physiques, donc en fait des regroupements de migrants qui échouent aux frontières et qui espèrent passer d'une manière ou d'une autre, soit vers les Canaries, soit à travers le détroit de Gibraltar, ou plus maintenant vers le détroit de Gibraltar parce qu'il est bien bétonné, mais plutôt vers le sud de l'Italie, voire maintenant plus récemment vers la Sardaigne. Mais au-delà de ces camps informels, on utilisait même le mot camp, on faisait rentrer dans le mot camp des dispositifs qui sont beaucoup plus impalpables et moins physiques pour le coup, comme la politique de visa par exemple. Et rien que la politique de visa en elle-même est une manière de tenir les gens à distance et de... Bon, on force un peu le trait, hein, mais de se dire qu'il y aurait une sorte de gros... camp, mais qui se trouve à l'extérieur des frontières de l'Europe, et que les frontières physiques de l'Union européenne ne seraient plus qu'en fait une sorte de dernier rempart destiné à se protéger des migrants, mais qu'avant ça, il y a toute une série de moyens qui sont utilisés pour freiner les migrants depuis leur point de départ. Et donc, dans ce sens-là, tout ce dispositif nous paraissait aller dans cette direction-là, et on a regroupé ça sous le terme de camp.
Combien de centres fermés il y a en Europe ?
Migre Europe a établi effectivement une carte qui est disponible sur le site de tous les lieux d'enfermement dont on a connaissance en Europe. Effectivement, quand on va voir cette carte, c'est assez impressionnant de voir tous les points rouges sur la carte, en particulier aux frontières sud. Donc je ne sais pas, je ne connais pas le nombre exact de camps qu'il y a, d'autant plus qu'il y a des lieux qui changent assez rapidement d'affectation, en particulier dans des zones assez instables, comme les îles grecques ou comme le sud de l'Italie, en fonction des besoins et des arrivées, on va dire, pour pas tomber dans le même travers.
Toujours les mots.
Voilà, en fonction des arrivées, qui sont affectées, désaffectées assez rapidement. Et il y a d'autres pays qui utilisent des prisons aussi. L'Allemagne notamment utilise pas mal de prisons pour enfermer des migrants. Donc il n'est pas facile d'avoir un comptage exact, mais en tout cas, on a recensé les lieux d'enfermement tels qu'on les connaissait, et on essaie de mettre la carte régulièrement à jour, et c'est assez impressionnant de voir le dispositif en place, quoi.
Oui, oui, oui. Effectivement, bon, pour conclure un peu, cette appellation de camp recouvre des réalités qui sont forcément très diverses, en fonction aussi de la réalité. On aurait pu développer sur la politique globale européenne, on le fera, j'espère, dans une prochaine émission. Mais c'est sûr que chacune de ces manifestations nationales de cette politique prend des formes diverses. On en a eu l'exemple lundi dernier. Il y a 90 membres du groupe d'action Migrantem Welcome à Zaandam qui ont cisaillé une clôture qui séparait deux bateaux qui étaient inaugurés ce jour-là et qui devaient contenir 300 cellules de deux personnes. Donc c'est des centres fermés sur l'eau. Mathieu Bietlou.
Eh bien, je crois que les centres fermés ont avant tout une fonction justement symbolique et de terreur qui servait entre autres à tenir les sans-papiers dans l'ombre. Je pense que l'immigration a toujours été acceptée à condition qu'elle soit docile et utile. Dans les années 30 ou 40, 50, elle était utile puisqu'on l'a fait venir pour travailler dans les mines, dans l'industrie, etc. Et elle était relativement docile parce que c'était des hommes seuls, sans leur famille, etc. Et on avait réussi à la tenir docile. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le sans-papier, il est astreint à la docilité, justement, de par la peur du contrôle policier dans la rue. Tous les témoignages de sans-papiers parlent de cette peur de qu'il y ait une camionnette de flics qui passe, la peur de l'arrestation, du centre fermé et de l'expulsion. Et je crois que les centres fermés ont entre autres une fonction symbolique de, entre guillemets, terreur sur les sans-papiers qui sont ici présents. Le but, on n'est pas dans les années 30 en Allemagne, le but n'est pas de rafler tout le monde. Le but, justement, est de faire quelques rafles qui ont pour effet donc de maintenir cette terreur sur le sans-papier pour qu'il reste invisible, docile. Et on n'abordera pas ce sujet aujourd'hui, mais évidemment, quand je dis être docile, c'est évidemment parce qu'il est très utile au niveau de l'économie informelle. L'immigration a toujours été instrumentalisée à des fins économiques. On avait l'immigration de travail au moment de la production fordiste dans des grands complexes production salariée, etc. Aujourd'hui, mon hypothèse, c'est qu'on a l'immigration irrégulière au service de la dérégulation économique et salariale. Donc le sans-papier, c'est le prototype du travailleur dont a besoin l'économie à flux tendu, enfin toutes ces nouvelles techniques de management où on veut des gens très précaires, très flexibles. Le sans-papier, c'est le plus précaire et le plus flexible de tous les travailleurs. Donc, les rafles, pour moi, c'est comme les centres fermés, elles participent à maintenir cette terreur sur le sans-papier. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la terreur sur le sans-papier pour qu'il soit docile. Il y a aussi tout un jeu, parce que si on maintient des institutions comme les centres fermés, qui, comme je l'ai dit, ne sont pas très efficaces, coûtent très cher en termes humains, en termes financiers, en termes de réputation de la Belgique, les condamnations par la Cour des droits de l'homme, etc. Si on les maintient, c'est que ça doit remplir, ça doit servir des intérêts ou produire des effets qui ne sont pas inintéressants. Et donc, les RAF, c'est la même chose, et en période électorale, c'est que c'est peut-être aussi ça a peut-être aussi comme rôle de rassurer une opinion publique. Une opinion publique qu'on a préalablement inquiétée. Donc une opinion publique qui se pose plein de questions sur l'avenir et sur ce que peuvent encore faire ces gouvernants par rapport à tout ce qui est chômage, insécurité économique, etc. Eh bien, je schématise fortement parce qu'on est pressé. Cette opinion publique, on l'inquiète en lui disant il y a des graves problèmes, il y a une menace d'immigration, il y a des graves problèmes d'insécurité, il y a une menace terroriste. On la focalise là-dessus sur ces problèmes, on l'inquiète parce que c'est des questions sur lesquelles on peut la rassurer en sortant les gros bras, en sortant des rafles, en mettant en avant des centres fermés, etc. Couplage tout à fait performant entre le néolibéralisme, donc dérégulation totale, et un retour de la force par le sécuritaire qui vient compenser cette dérégulation.
Alors t'es là pour quoi toi ?
Moi je suis là pour le Remédé, donc qui est un collectif de collectifs qui prépare la manif du 1er mai, donc qui aura pour thème la précarité selon deux axes principaux qui seront d'une part la précarité du travail et d'autre part la précarité des migrants. Et il nous semble qu'il y a un lien très fort entre les deux. Il nous semble que les migrants sont traités comme ça ici, ça a un lien très fort avec la façon dont on conçoit le travail ici en Belgique. Et à l'inverse, la façon dont les sans-papiers sont contraints de travailler au noir, ça a un impact extrêmement négatif sur les travailleurs ici dans toute une série de secteurs. S'il y a une véritable casse sociale, un moins-disant social généralisé dans des secteurs comme la construction ou les saisonniers dans l'horticulture, c'est sans doute clairement lié aux sans-papiers. Et donc je crois que les travailleurs et les sans-papiers ont extrêmement intérêt à lier leur lutte. Et c'est un peu ça le message de l'Euromédé.
D'un côté, nous, on délocalise certaines de nos entreprises vers le tiers-monde. Et d'un autre côté, on a un tiers-monde à domicile pour exécuter toute une série de travaux non délocalisables comme la construction, l'agriculture, les services domestiques. Et ce sont des travailleurs surexploités. Et donc c'est pour ça qu'on se bat avec l'UDEP, l'Union de défense des sans-papiers, pour la régularisation de tous les sans-papiers.
Madame, vous pouvez pas me dire ce que vous en pensez ?
Rien du tout.
Vous êtes muette.
Ah, plus que ça.
Ah. Ça veut déjà dire quelque chose.
Ça me pompe.
Ah, ça vous pompe. Eh oui. Vous habitiez là avant ?
Oui.
Donc vous avez vu tout ça arriver, quoi.
Petit à petit.
Ouais. Alors vous êtes avec nous, vous êtes pour que ça ferme, non ?
Je suis neutre, mon lapin, j'ai la peur.
D'accord. Au revoir.
Notre collectif a une présence dite hebdomadaire autour du centre, tous les mercredis, tous les samedis, ainsi qu'une permanence téléphonique quotidienne à laquelle les personnes peuvent nous contacter, les personnes détenues.
Est-ce que tu sais donner le numéro du CRACP, justement, pour les auditeurs?
Donc, le numéro du CRACP, c'est le 04 232 0104. Et notre permanence, c'est tous les jours de 17h à 18h30, sauf le dimanche.
D'accord.
Nous sommes venus de Liège et de Bruxelles. On est avec un bus de sans-papiers de Liège et de Bruxelles. Nous venons évidemment manifester contre l'enfermement des enfants et de leurs parents ici à Merckxplatz, à Votem bientôt, 127 bis et partout. Et nous vous donnons rendez-vous à la manifestation à Votem, où on va surtout protester contre l'enfermement de tous les sans-papiers. Il n'y a aucun sans-papier qui mérite d'être enfermé parce qu'il est illégal, parce qu'il crevait chez lui, parce qu'il était malheureux chez lui. Contre les centres fermés de tous les sans-papiers. Nous nous battons aussi contre l'Europe forteresse. Tout le monde sait que c'est partout dans les pays européens la même chose. En dehors des frontières, on arrête les migrants. Il y a des centaines, j'ai vu des milliers de personnes qui meurent. Et on voudrait bien aussi élargir le débat à ce moment-là.
C'est, après tout, c'est des personnes, même si c'est des personnes issues de l'immigration, et on sait que l'humanisme est beaucoup plus important. Il faut tenir compte de la personne d'abord, qui, avant tout, la personne est une humaine. Il ne faut pas l'enfermer, quoi. Il faut le traiter bien comme tous les autres, quoi. Voilà, quoi. C'est pourquoi je suis venu ici aussi, quoi. Voilà, je suis pour la fermeture des centres, voilà, parce que c'est inhumain, quoi, parce qu'il faut parler encore de l'exemple des enclaves encore. Ça donne un peu l'exemple des enclaves où les gens encore sont encore plus maltraités, encore. On peut faire allusion à ça aussi, hein, que c'est pareil par rapport aux centres fermés, quoi.
Les enclaves, tu veux dire? Tu parles d'eux?
Si t'as par exemple Melilla, où les gens arrivent dans les grillages, encore maltraités, quoi. Donc, c'est encore plus pire que les centres, mais encore, je peux dire que les centres fermés ici en Belgique peuvent maintenant rentrer dans la même catégorie que ces enclaves-là vers le Maroc aussi, quoi. On a vu des morts, quoi, par exemple.
On veut la régularisation! On va créer la régularisation et la liberté à ces personnes qui sont là au centre fermé, à des familles, à des enfants qui sont fermés là, à ce centre que vous voyez là, centre fermé.
Il faut abandonner la piste des centres fermés parce qu'il n'y a pas de place pour une prison pour des gens qui n'ont rien fait. Je suis sûr que l'histoire... enfin, le condamner pour l'existence même du centre fermé ici en Belgique. Un jour ou un autre, ça sera une honte sur l'histoire de Belgique. Et pour ça, il faut se mobiliser tout le temps pour montrer clair que c'est une honte.
C'est quand même aberrant que quand
On est dans ce pays, on voit ce qui se passe. Les mêmes responsables politiques qui soutiennent des dictatures dans des pays en voie de développement, dans les pays sous-développés, en Afrique en particulier, comment ouvre des centres fermés pour enfermer les victimes, disons, des personnes qui sont soutenues dans nos pays, quoi. Et on se dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et lorsque les bourreaux viennent dans ces pays ici, on déroule les tapis rouges, mais quand les victimes viennent, on les enferme dans des centres fermés. Je trouve ça sadique, je trouve ça inhumain et je trouve ça intolérable. Voilà.
Le journal sans papier de Radio Panique, 105.4 à Bruxelles, vous a proposé une émission spéciale sur les centres fermés en Belgique, avec Mathieu Bietlo, chercheur et militant, Pierre-Arnaud Perrouti, chercheur et conseiller juridique à la Ligue des droits de l'homme et au sein du réseau Migre Europe, Alexis De Soif, avocat au barreau de Bruxelles, Louis Michel, ministre d'État et commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire, Dédé Mutombo Kassadi, ancien porte-parole de l'UDEP, Union de défense des étrangers sans papiers, et ancien détenu au centre fermé du 127 bis. Mohamed, ancien détenu du centre fermé de Vautem. Des membres du CRACP, coordination de résistance au centre pour étrangers, et de la CRER, coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation. Et de nombreux manifestants présents pendant les manifestations organisées devant les centres fermés de Vautem et de Merksplas. Cette émission à propos des centres fermés en Belgique, enregistrée en 2007 par l'équipe de Radio Panique, vous était proposée en rediffusion par Radio No Border, dans la perspective du camp No Border qui se tiendra du 27 septembre au 3 octobre 2010 à Bruxelles. À bientôt.
Join the No Border camp in Brussels. 7 days of action, information, movies, debates on migration and migration policy from the 25th of September till the 3rd of October 2010. Check our website www.noborderbxl.eu.org.